Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures, Jean-Claude Mabéa.
À la une de cette première édition de l'actualité de ce jeudi 28 mars 2024 sur Radio de la Paix. En prélude à son passage au quatrième cycle de l'examen périodique universel prévu le 5 novembre prochain à Genève en Suisse, le Conseil national des droits de l'homme a organisé hier mercredi à son siège à Abidjan-Cocody un forum régional de consultation et de recueil d'informations auprès des parties prenantes en vue de la rédaction de son rapport alternatif sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Vous en saurez un peu plus en début de ce journal. Économie nationale, le projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique a été adopté mardi dernier à l'Assemblée nationale. L'actualité africaine nous conduira au Sénégal où les résultats provisoires de la présidentielle ont été proclamés hier tard dans la soirée et le vainqueur, l'opposant Bassirou Diomaye Faye, a eu plus de 54% des voix. La revue des titres des journaux parus ce jour sera assurée par Ghislain Koulibaly. Et l'invité de la rédaction de ce jeudi, Dr Christophe Kouamé, président de l'ONG Civis Côte d'Ivoire, qui prend part à l'édition 2024 du Forum mondial sur l'intégrité et la lutte contre la corruption qui se tient du 25 au 28 mars à Paris en France, reviendra sur les objectifs et les enjeux de cette rencontre dans un entretien mené par Jean-Claude Kouamé. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Promotion des droits de l'homme. Le forum régional de consultation et de recueil d'informations en vue de la rédaction du rapport alternatif du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, au quatrième cycle de l'examen périodique universel UPU de la Côte d'Ivoire s'est tenu hier mercredi 27 mars 2024 au siège de l'institution aux deux plateaux vallons à Abidjan-Cocody. Des précisions avec Bamba Sendou, secrétaire exécutif du CNDH.
La Côte d'Ivoire sera évaluée le 5 novembre dans le cadre de son quatrième passage à l'examen périodique universel. Il y a un rapport étatique qui sera présenté, mais le Conseil doit présenter un rapport alternatif. C'est dans ce contexte que nous avons organisé 5 consultations, une à Abidjan, une à Bangourou, Korogo, Boaké et Daloa. Et ces consultations visent à interagir avec les organes de la société civile, les leaders d'opinion, d'administration, pour recueillir leurs avis sur les différentes recommandations et les défis actuels sur les questions des droits de l'homme. Et donc, quand on va collecter ces différentes informations, nous allons pouvoir rédiger notre rapport alternatif sur la base des informations qu'on aura recueillies auprès des populations.
Vous allez aussi vous appuyer sur le rapport du cycle précédent?
Oui, puisqu'il faut faire le point des recommandations, étant donné qu'en 2019, l'État de Côte d'Ivoire avait accepté 222 recommandations. Il faut faire le point de la mise en œuvre de ces 222 recommandations et à partir de là, faire consultation avec les populations pour rédiger le rapport alternatif. C'est l'examen périodique universel au cours duquel tous les pays passe et les autres pays posent des questions pour évaluer la situation des droits de l'homme dans notre propre pays. Et donc, c'est un passage obligatoire pour l'ensemble des pays du monde entier.
C'était Bamba Sendou, le secrétaire exécutif du Conseil national des droits de l'homme, CNDH. Le gouvernement ivoirien veut relever la gestion de la dette publique au niveau des standards internationaux. Alors, l'adoption d'un test unique couvrant l'ensemble des aspects liés à la politique d'endettement, à la stratégie de gestion de la dette et à la gouvernance est apparu nécessaire. Un projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique a donc été adopté mardi par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Écoutons à cet effet le ministre des Finances et du Budget, Adama Koulibaly, après l'adoption du test.
C'est une loi qui vient renforcer davantage les modalités d'endettement et de gestion de la dette publique. C'est un sujet qui intéresse la nation. Vous avez constaté récemment qu'il y a eu beaucoup de discussions sur le sujet. Il était donc important que cette loi, qui était déjà en préparation depuis longtemps, puisse être présentée et expliquée aux honorables députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. C'est ce que nous avons fait, les innovations que ça apporte. Premièrement, c'est une loi qui va encadrer les modalités d'emprunt emprunts. Et pas seulement les emprunts d'État, mais aussi tout ce qui est octroi de garantie aux entreprises, aux personnes morales et aux entités qui solliciteraient l'État pour des garanties. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'il fallait expliquer de façon détaillée, de façon extensive aux honorables députés. La deuxième innovation, c'est que désormais, avec cette loi, rien ne pourrait être fait sans que les honorables députés ne puissent examiner cela dans le cadre de la loi de finances. Parce que désormais, avec cette loi, toute la documentation nécessaire concernant les emprunts vont accompagner la loi de finances. Donc en votant la loi de finances, les députés vont donner leur accord sur le plafond de financement de l'État pour une année donnée. La loi, comme vous le savez, elle a une portée générale. Il y a des décrets d'application qui seront donc élaborés pour l'application de certaines dispositions de cette loi.
Nous venons d'écouter le ministre des Finances et du Budget, Adama Koulibaly. Rendons-nous maintenant à Korogo, où le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a présidé la cérémonie de baptême et de remise des épaulettes aux 1901 élèves sous-officiers de la promotion Feu Adjudant en hommage à Chi Justin. Le ministre directeur de cabinet du président de la République, par ailleurs président du Conseil régional du Poro, Fidel Boroton Sarasoro en était le parrain. Retrouvons pour plus de détails Tommy Corona dans une correspondance particulière.
Revenant sur le respect inconditionnel des règles, le premier responsable de la sécurité des Ivoiriens n'a pas porté de gants, général Vagondo Diomandé.
Au nouveau policier, la vision de son excellence, monsieur le président de la République, est de construire une nation forte, une nation développée et une nation prospère. Cela passe par la construction d'une institution policière performante qui s'inscrit dans la lutte acharnée contre le grand banditisme. Votre service des populations ivoiriennes dans toutes leurs composantes. Vous devez être disponible pour chaque citoyenne que vous devez traiter avec le plus grand respect et la plus grande courtoisie, sans aucune distinction de forme.
Parrain de la cérémonie, Fidel Boroton Sarasoro s'est apesanti sur la profonde réforme du secteur de la sécurité.
Des investissements importants ont été consentis à travers les différentes lois de programmation militaire et sécuritaire pour construire des casernes, des écoles de formation, équiper nos forces, recruter au sein des armées et à la police nationale. Grâce à tous ces investissements, nous avons aujourd'hui des forces de défense et de sécurité bien formées, disciplinées et professionnelles.
Rappelons que l'école de police Amadou Gon Coulibaly a été créée en février 2021. La promotion sortante est la troisième depuis l'ouverture des portes en juillet 2020. Tommy Corona, Korogo, pour Radio de la Paix.
Intéressons-nous aux prévisions météorologiques. La Côte d'Ivoire subit depuis plusieurs années les effets du changement climatique avec des records depuis 1960. Dans l'objectif de toujours améliorer les services fournis par la SODEXAM sur le plan de la météorologie et avec l'appui du gouvernement, un projet majeur va bientôt voir le jour. Il s'agit d'un projet de modernisation des infrastructures pour l'amélioration de la surveillance climatique, la vigilance météorologique, l'alerte précoce et la maintenance des systèmes d'un coût global de 18 milliards de francs CFA. L'information a été donnée par Daouda Konaté, le directeur de la météorologie nationale à la SODEXAM, la société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, au cours de la tribune Tout savoir sûr, initiée par le CICG. Nous l'écoutons.
Nous allons avoir dans ce projet 13 stations de référence en Côte d'Ivoire. On va passer de ces 13 stations à 30 stations de référence où chaque région administrative de la Côte d'Ivoire sera dotée d'une station climatologique pour pouvoir aider les agriculteurs, les secteurs socio-économiques de chaque région à pouvoir connaître son climat et également anticiper sur les actions d'adaptation. Nous allons doter chaque région administrative d'un équipement de mesure. Nous allons acquérir également un radar météorologique pour répondre aux alertes. Le radar météorologique est un système qui permet de détecter 6 heures ou 8 heures en amont un phénomène qui arrive pour savoir s'il est dangereux ou pas. Parce qu'avec le radar, on arrive à calculer à l'intérieur du nuage la quantité d'eau qui peut tomber. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire, connaître exactement la quantité d'eau dans un nuage. Avec un radar météorologique, on peut calculer la quantité d'eau qui est dans un nuage et où il peut tomber. Un autre acquis, ce sera vraiment dans la sous-région ouest-africaine, la Côte d'Ivoire va être dotée d'un centre régional de maintenance des équipements météorologiques francophones.
Les propos de Daouda Konaté, le directeur de la météorologie nationale à la SEDEXA, ont été recueillis par Mata Touré. On met le cap à présent sur Daloa, où l'Association nationale des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire, ANAPROCI, a tenu son assemblée générale ordinaire électif le mardi dernier. Deux candidats étaient en lice. Le président du conseil d'administration de cette structure, Kanga Kofi, a donc été réélu. Les producteurs et délégués présents à cette assemblée générale ont pris des résolutions pour faire face aux difficultés de leur filière. La question de leur participation à l'interprofession et l'augmentation du prix Borchon face à la hausse du prix sur le marché international était au cœur de cette assemblée générale, nous dit Jean-Noël Kwame, notre correspondant sur place.
Après sa réélection à la tête de l'Association nationale des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire, ANAPROCI, Kanga Kofi, président du conseil d'administration, revient sur les principales recommandations de cette assemblée générale.
Que ce soit au niveau de l'interdiction entre usines, avec la situation de la mévente de la campagne 2016-2017, où le produit n'a pas été dédommagé, il faut aller au bilan du système afin de réexaminer là où il faut apporter les corrections nécessaires. Certes, nous voulons aller à l'interprofession, mais que la vision du chef de l'État consignée par l'ordonnance 473-2012 soit respectée. Nous sommes dans une démarche administrative et responsable.
Venus des 23 régions productrices de café cacao du pays, les producteurs ont relaté leurs difficultés dans les plantations.
Tiens, Chantal, c'est vrai, on dit on paye 5 000 francs ailleurs, on n'a pas la même réalité. Mais c'est de tenir compte de nos souffrances, de toujours nous aider à augmenter ce prix-là.
Kwaku Amena Germaine, on n'arrive pas à scolariser nos enfants. Nos villages ne sont pas électrifiés. Les routes, l'eau.
Kwasi Jean André Denmas, tous les produits, surtout les engrais, tout est cher. Si ça ne va pas, on va abandonner les champs.
Assemien Komoué, que le président prenne pitié de nous, qu'il puisse donner cette filière aux syndicats pour qu'ils tentent leur expérience pour que les Ivoiriens puissent jouir des fruits de leur effort.
En soutien à l'ANAPROCI, Kone Moussa, président du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, a également plaidé pour un prix Borchon plus juste et équitable. L'ANAPROCI entend tout mettre en œuvre pour une amélioration des conditions de vie des planteurs en Côte d'Ivoire. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
Il est 7h passées de 11 minutes à Yamoussoukro, c'est la même heure à Dakar. Actualité au Sénégal. Après la tenue de la présidentielle du 24 mars 2024, les choses s'accélèrent à moins d'une semaine de la fin du second et dernier mandat du président Macky Sall. La Commission nationale de recensement des votes a procédé hier soir à la proclamation provisoire des résultats de ce scrutin qui consacre la victoire de l'opposant Bassirou Diomaye Faye qui a récolté plus de 2 millions des suffrages valablement exprimés. Plus de détails avec Amadi Diouf, président de la dite commission, au micro de notre correspondant particulier à Dakar, Abdourahmane Diallo.
La Commission nationale de recensement des votes, après agrégation, correction et harmonisation, proclame provisoirement les résultats qui suivent. Nombre d'électeurs inscrits, 7 371 890. Nombre de votants, 4 519 253. Nombre d'enveloppes trouvées dans les urnes, 4 519 253. Nombre de bulletins nuls, 33 991. Nombre de suffrages valablement exprimés, 4 485 165. Le taux de participation a été arrêté à 61,30%.
C'était à l'instant Amadi Diouf, président de la Commission nationale de recensement des votes du Sénégal. Il était au micro de notre correspondant particulier à Dakar, Abdourahmane Diallo. Retour dans les studios de Radio de la Paix à Abidjan Cocody, précisément à la Riviera 4, pour recevoir maintenant Ghislain Koulibaly pour la revue des titres des journaux parus ce jour. Bonjour Ghislain.
Bonjour Jean-Claude, bonjour fidèles auditeurs et auditrices. Le chapitre sur la présidentielle au Sénégal alimente toujours l'actualité. Vous venez d'en parler à l'instant avec cette déclaration de la Commission nationale des recensements des votes qui proclame provisoirement les résultats avec à la tête le candidat du PASTEF Bassirou Diomaye Faye. Et c'est à juste titre que le Jour Plus affiche élection présidentielle sénégalaise, les résultats officiels provisoires proclamés hier. Depuis le scrutin du dimanche dernier, le candidat élu reçoit de nombreuses félicitations comme celle du président ivoirien Alassane Ouattara, a retrouvé dans Fraternité Matin. Restons dans cette ambiance liée aux élections en Côte d'Ivoire. La présidentielle est prévue pour 2025 et la CEI, la Commission électorale ivoirienne, lance une importante opération, nous fait savoir l'Inter. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, le quotidien L'Avenir nous donne des précisions. Il s'agit d'une mise à jour de la cartographie électorale à partir du 1er avril. À ce sujet, le nouveau réveil s'exclame et s'interroge à la fois. Et si la CEI allait à l'école sénégalaise? Que renferme l'actualisation de la cartographie électorale? Autre information traitée au niveau politique, c'est la visite de Soultou Soul à Laurent Gbagbo. Le temps revient sur les temps forts de cette rencontre. L'Inter également nous montre une image des deux hommes qui se saluent chaleureusement, affichant Gbagbo fait des confidences sur Soro et Picasso. Jean-Claude, terminons avec cette information qui concerne la filière café-cacao. Alors qu'une grève était annoncée ce jeudi par deux syndicats exerçant dans ce secteur, le rassemblement titre « Remous dans le café-cacao ». Adjoumani désamorce une terrible bombe. Et toujours sur cette filière, un reportage nous est proposé aujourd'hui même par Fraternité Matin. Reportage intitulé « Fuite du café et du cacao vers la Guinée, Sipilou, Waninou, la plaque tournante ». Des points importants ressortent tels que les techniques des trafiquants et le difficile combat contre le phénomène. Jean-Claude, il y a aussi cette alerte faite par le confrère. Et cette fois-ci, au niveau sanitaire, savez-vous que la tuberculose tue encore 1600 personnes par an?
Merci à Ghislain Koulibaly. Je rappelle que vous reviendrez ici à 8h. Nous abordons la dernière ligne droite de ce journal, l'invité de la rédaction pour parler de promotion de la bonne gouvernance dans le monde. L'Organisation de coopération et de développement économique de l'Union européenne organise depuis le lundi 25 et ce jusqu'à ce jeudi 28 mars en France, à Paris, l'édition 2024 du Forum mondial sur l'intégrité et la lutte contre la corruption. En tant qu'organisation de la société civile ivoirienne engagée dans la lutte contre la corruption, l'ONG Civis Côte d'Ivoire prend part à cette rencontre et joint à Paris par Jean-Claude Comé, Dr Christophe Kwame, président de cette ONG, nous parle des objectifs de ce forum. Il est interrogé donc dans le cadre de l'invité de la rédaction.
Dr Christophe Kwame, bonjour.
Bonjour.
L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, organise pour l'édition 2024 la semaine de l'intégrité et de la lutte contre la corruption. Alors, quelle est la particularité de cette semaine-là?
Alors, le thème de cette année, c'est concevoir l'avenir avec intégrité. Ce qu'il faut retenir, c'est que les groupes des gouvernants, les groupes du privé et la société civile et les médias se retrouvent une fois par an au siège de l'OCDE pour échanger les bonnes pratiques. La conférence dans laquelle nous avons intervenu parlait, par exemple, des fuites de capitaux. Et un gouvernement africain a fait venir les représentants du Premier ministre pour nous parler en disant que les Occidentaux acceptent les fuites de capitaux des pays pauvres, nous le ramènent sous forme de dons. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant dès aujourd'hui que l'Afrique travaille avec l'Occident pour que les fuites de capitaux n'arrivent pas ici et qu'on ne nous les ramène pas en dons?
Alors, M. Christophe Kwame, pourquoi, selon vous, l'OCDE insiste sur ces deux notions d'intégrité et de la lutte anticorruption?
L'intégrité fait référence à la clarté et à la transparence dans la gestion des finances publiques de tous les pays. L'OCDE est la cellule économique anticorruption de l'Union européenne qui travaille tous les jours avec les gouvernements des 28 pays pour que ces 28 pays-là, en collaborant avec le monde entier, l'Afrique, l'Occident, l'Asie et l'Orient, que ces relations soient intègres, ces relations soient transparentes et que la prospérité soit partagée dans tous ces pays. Donc voilà un peu le rôle de l'OCDE. C'est pour cela que l'OCDE rencontre tous ces gouvernants du monde entier qui sont présents ici, y compris les citoyens représentés par la société civile, et insiste vraiment sur les relations de gestion des finances publiques et que cette gestion-là soit intègre pour qu'elle soit transparente et que, in fine, ce soit la bonne gouvernance
entre tous ces partenaires-là pour que la prospérité soit partagée à travers le monde.
Alors, mais en quoi les politiques de lutte contre la corruption et aussi les actions pour accroître donc l'intégrité peuvent permettre un développement?
L'OCDE a publié un document, une convention qui a 25 ans cette année. Un des points forts, c'est que l'OCDE dit, quand un pays lance, par exemple, un marché public, ce qui a été question ce matin, si tout le processus du marché public tient compte de l'intégrité et de la transparence, alors le pays va se développer en ce sens que ce marché ne va pas coûter cher. Quand vous êtes dans un pays très corrompu, quand on lance un marché public, par exemple, d'un pont ou par exemple d'un édifice public, un hôpital, et que la transparence et l'intégrité n'accompagnent pas le processus, alors ce marché finit deux fois plus cher et l'ouvrage souvent n'est pas aux normes de la qualité parce que le marché a été corrompu et cette corruption va faire que l'entreprise soumissionnaire va pas rendre de bons travaux en ce sens que l'agent public qui va le contrôler est déjà dans le système de corruption. Voilà un peu pourquoi l'OCDE chaque année appelle les gouvernants de tous les pays pour que tout le monde se mette aux normes d'intégrité. Aujourd'hui, il a été question d'un pacte qu'on appelle le pacte d'intégrité que Transparency International et l'OCDE sont en train de mettre au point dans la majorité des pays du monde.
Alors, dans cette approche de lutte contre la corruption et puis aussi de favoriser l'intégrité, il y a la place prépondérante donc des organisations de la société civile. Justement, vous, quel rôle vous comptez jouer en vous imprégnant donc de ces réalités-là, de ces expériences, et quel retour justement lorsque vous serez en Côte d'Ivoire?
Civis Côte d'Ivoire et ses partenaires de la société civile ivoirienne ont lancé depuis quelques années plusieurs plaidoyers, dont avis favorable du gouvernement. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la haute autorité est en train d'avancer sur les sujets majeurs de lutte contre la corruption. Avant d'arriver ici, nous avons produit ce qu'on appelle les documents de position pour expliquer un peu ce que l'État de Côte d'Ivoire a déjà fait et ce que l'État de Côte d'Ivoire est en train de faire. Et donc, pour le futur, nous sommes venus ici pour apprendre des pairs et voir les bonnes pratiques pour les appliquer dans le cadre précis de la déclaration de patrimoine, dans le cadre précis de la commande publique, les marchés publics, et dans le cadre précis des comités d'intégrité. Donc, nous sommes arrivés ici pour écouter, nous sommes arrivés ici pour partager. Nous avons vu beaucoup de pays africains aussi qui sont présents. Et quand nous partons, nous allons mettre ce qu'on appelle aux normes dans notre jargon, ce que nous savons, et relever ça par rapport aux critères internationaux et alors améliorer notre plaidoyer de savoir vis-à-vis du gouvernement ivoirien, vis-à-vis de la haute autorité qui nous invite régulièrement à leurs travaux. Donc voilà un peu notre rôle. Nous venons apprendre des pairs et nous essayons d'appliquer et de travailler, surtout que maintenant en Côte d'Ivoire, certaines lois relatives à l'intégrité, à la lutte contre la corruption, la société civile y participe.
Merci, Dr. Christophe Kwame.
C'est moi qui vous remercie, monsieur.
Invité de la rédaction de ce jeudi, Dr. Christophe Kwame, président de l'ONG Civis Côte d'Ivoire, qui prend part en ce moment à l'édition 2024 du Forum mondial sur l'intégrité et la lutte contre la corruption qui se tient du 25 au 28 mars à Paris, en France, était en ligne avec Jean-Claude Kwame. Entretien à réécouter dans l'édition de 12 heures. Tout de suite, le rappel de l'essentiel. En prélude à son passage au quatrième cycle de l'examen périodique universel prévu le 5 novembre prochain à Genève en Suisse, le Conseil national des droits de l'homme a organisé hier mercredi à son siège à Abidjan-Cocody un forum régional de consultation et de recueil d'informations auprès des parties prenantes en vue de la rédaction de son rapport alternatif sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Vous avez eu des précisions en début de ce journal. Économie ivoirienne, le projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique a été adopté le mardi à l'Assemblée nationale. C'est la fin de ce premier journal de ce jeudi. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 8h pour un nouveau point sur l'actualité.